Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Liberté, Urbania et Coup de pouce. Au programme, punir la misère par la misère, la vie d'adulte et utiliser le rétinol sans y laisser sa peau. Bonne écoute.
Punir la misère par la misère. Un texte de Lucie Le Monde, paru à l'hiver 2022 dans la revue Liberté. Retour sur 5 années de lutte pour le respect des droits des femmes détenues au Leclerc. En février 2016, le gouvernement québécois procède, dans l'improvisation totale, à la fermeture de la maison Tanguay et au transfert des femmes y étant détenues vers le Leclerc, un ancien pénitencier fédéral pour hommes condamnés à de lourdes peines. Il s'agit d'un lieu de détention hautement sécuritaire, conçu pour des hommes jugés violents et non pour des femmes peu dangereuses qui purgent des peines de durée moyenne inférieure à 3 mois. Le Leclerc avait pourtant été fermé en 2012 pour cause de vétusté par le gouvernement de Stephen Harper. Or, le Québec n'a pas trouvé mieux à faire que d'y incarcérer des femmes dans des conditions de vie dégradantes, environnement architectural beaucoup trop répressif, conditions matérielles indignes, eau non potable, infestation de vermine et de champignons, déficience des systèmes de chauffage et d'aération, présence d'amiante, etc., fouilles à nu fréquentes et abusives, recours à l'isolement et au confinement en cellules pour des raisons administratives ou comme outil de gestion des femmes présentant des problèmes particuliers, approche correctionnelle inappropriée, personnel insuffisamment formé, tenue de propos dénigrants et sexistes, accès déficient aux soins de santé et aux services sociaux. L'incarcération des femmes en ce lieu bafoue de façon évidente leurs droits fondamentaux garantis par les chartes canadiennes et québécoises, de même que par les traités internationaux, notamment le droit d'être incarcéré dans le milieu le moins restrictif possible, le droit à la dignité et le droit d'être traité avec humanité, le droit de ne pas être soumise à des fouilles abusives, ainsi que le droit à la non-discrimination, qu'elle soit fondée sur le sexe, l'identité de genre, la race, la condition sociale ou le handicap. Selon le profil des femmes confiées au service correctionnel en 2015-2016, produit par le ministère de la Sécurité publique, la majorité des femmes condamnées et incarcérées au provincial purgent de courtes peines pour des infractions relatives à l'administration de la justice, par exemple l'omission de se conformer à des conditions, ou alors pour des délits peu graves liés à l'expérience de la pauvreté. Selon ce document, les femmes judiciarisées sont peu scolarisées, issues de milieux défavorisés, et elles éprouvent des difficultés à s'intégrer socialement. Finalement, elles ont en grande majorité vécu de la violence psychologique, physique ou sexuelle pendant leur enfance ou leur vie adulte. Le rapport gouvernemental conclut que les femmes judiciarisées sont victimes autant que contrevenantes. Pourquoi donc les emprisonner dans les conditions sévères et l'environnement restrictif du Leclerc? La configuration architecturale et le règlement intérieur des prisons sont conçus pour assurer un contrôle total sur le corps et l'esprit des personnes qui y sont confinées. Dans le modèle privilégié par nos sociétés occidentales, les prisonniers et les prisonnières sont complètement isolés dans leur petite cage, où ils et elles n'ont aucune intimité, se sachant constamment surveillés. Ce système induit une conscience permanente de l'exercice d'un pouvoir tel que l'a décrit Jeremy Bentham dans son Panopticon, 1791. Le sociologue Erwin Goffman qualifie pour sa part la prison d'institution totalitaire au sens où elle opère de façon autonome et n'est pas soumise aux règles de la vie normale. Le but même du système carcéral est totalitaire, puisqu'il vise la transformation des détenus en êtres soumis, respectueux de l'ordre et de l'autorité. comme l'a écrit Michel Foucault dans son célèbre « Surveiller et punir » 1975, la prison quadrille au plus près le temps, l'espace et les mouvements des personnes qui y sont incarcérées. Danielle Lochac ajoute quant à elle dans « Droit et non-droit dans les institutions totalitaires » 1981 que la prison remplit une fonction normalisatrice et cherche à « entretenir la soumission et à reproduire le modèle ». Or, si ces principes ont d'abord été adoptés pour des établissements où l'on retrouve des détenus masculins, les femmes détenues ne représentent pas le même degré de dangerosité et ne nécessitent pas le même niveau de sécurité. Les normes appliquées pour la construction de prisons pour femmes sont donc en principe différentes. L'utilisation des fouilles à nu constitue un exemple particulièrement évocateur de l'effet discriminatoire que peut avoir sur des femmes l'application de protocoles de sécurité pensés pour des hommes. La fréquence de ces fouilles, avant et après un entretien au parloir, à chaque sortie vers le tribunal, vers l'hôpital, etc., et les conditions dans lesquelles elles se déroulent, souvent derrière de simples paravents avec ordre de soulever les seins, d'écarter le sexe ou les fesses, sont des humiliations extrêmement difficiles à vivre pour les femmes. Comme la majorité d'entre elles ont subi au cours de leur vie des violences sexuelles, physiques ou psychologiques, ces fouilles sont souvent vécues comme une agression et une humiliation supplémentaire. Poursuivons la lecture de « Punir la misère par la misère », un texte de Lucie Lemonde paru à l'hiver 2022 dans la revue Liberté. Les femmes autochtones judiciarisées sont d'ailleurs doublement victimes de l'effet discriminatoire du recours aux fouilles à nu. En effet, ces femmes sont sans cesse déplacées d'un endroit à l'autre en raison de l'éloignement géographique, de sorte qu'elles subissent des fouilles à nu encore plus fréquentes. On apprend dans le rapport final de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, la commission vient, que les femmes inuites peuvent être fouillées à nu jusqu'à 5 ou 6 fois lors de leur transport au Nunavik, vers Amos ou vers le Leclerc. Les détenues trans sont elles aussi victimes d'une discrimination additionnelle lors des fouilles à nu. En Ontario et dans les institutions fédérales, les détenues trans peuvent demander des fouilles croisées, split search, soit le haut du corps par une femme et le bas par un homme. Mais il n'existe pas, dans le système carcéral québécois, de directives claires et uniformes sur la façon de procéder aux fouilles, de façon à s'adapter à la réalité physiologique et au vécu émotionnel des femmes trans. Pour couronner le tout, selon les données obtenues par le biais de la loi sur l'accès à l'information, les fouilles effectuées au Leclerc entre 2016 et 2019 n'ont pas permis de découvrir de substances ou d'objets interdits. On ne peut donc justifier ces fouilles en invoquant des questions de sécurité. Quant au recours à l'isolement, les données disponibles au fédéral et en Ontario, le Québec ne tenant pas de telles statistiques, indiquent que les femmes, principalement les femmes autochtones, en font plus souvent les frais et pour de plus longues périodes que les hommes. Or, le placement en isolement aurait, sur les femmes, des effets néfastes plus graves. L'ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, règles Nelson Mandela, et les règles des Nations Unies concernant le traitement des détenus et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes, règles de Bangkok, reconnaissent en effet que les femmes sont particulièrement vulnérables à l'isolement en raison des violences qu'elles ont subies par le passé et de la possibilité d'en subir de nouvelles durant la détention. On a vu pendant la pandémie de COVID-19 que les périodes de quarantaine imposées aux nouvelles venues au Leclerc, soit 14 jours d'isolement total, souvent sans douche, sans téléphone, sans visite, étaient excessivement éprouvantes et créaient des souffrances intenables. Le 1er mai 2021, une jeune autochtone a mis fin à ses jours par pendaison dans sa cellule, au sortir de cette quarantaine. Comment expliquer que les conséquences pourtant prévisibles du recours à un isolement aussi long n'aient pas été anticipées. Pourquoi ne pas avoir mis en place un protocole d'accompagnement pour la réintégration dans la population générale de la prison? Le personnel du Leclerc est peu ou pas formé pour travailler avec des femmes. Certains agents masculins se disent d'ailleurs insatisfaits de travailler avec des femmes, ayant été embauchés pour travailler avec des hommes. Dans les témoignages des femmes étant ou ayant été incarcérées au Leclerc, le grief qui revient le plus souvent est la façon méprisante dont elles sont traitées par une partie du personnel, principalement des hommes, lesquels usent de violences verbales et psychologiques ou tiennent des propos dénigrants, sexistes et racistes. La mobilisation autour de l'incarcération des femmes au Leclerc, menée au départ par la Ligue des droits et libertés et la Fédération des femmes du Québec, puis par la Coalition d'action et de surveillance sur l'incarcération des femmes au Québec, CASIFQ, créée en 2018, a suscité un mouvement de sympathie et d'indignation dans des pans de la population traditionnellement peu sensibles à la question des droits des détenus. La CASIFQ a réussi à mettre en lumière le fait que la répression pénale cible de façon disproportionnée les femmes issues de groupes défavorisés, marginalisés et racisés, lesquelles se trouvent prises dans le cercle infernal des portes tournantes. Par exemple, une femme toxicomane commet un petit vol et est condamnée à une courte peine d'emprisonnement. Elle est libérée sous condition de ne pas consommer de drogue. Elle échoue à un test aléatoire et est réincarcérée pour non-respect des conditions. Libérée à nouveau, mais toujours aux prises avec une dépendance, elle commet un nouveau délit, reçoit une sentence plus lourde et des conditions plus sévères qu'elle peine à respecter. Un cercle vicieux s'enclenche et les conséquences déboulent. Perte d'emploi, de logement, de la garde des enfants, etc. S'il faut continuer à dénoncer les conditions d'incarcération des femmes, il faut pousser la réflexion plus loin et se questionner sur le bien fondé du recours à la judiciarisation et à l'emprisonnement pour répondre à des problèmes sociaux. Durant la pandémie de COVID-19, le danger de propagation du virus dans les établissements de détention a donné une impulsion à la diminution de la population carcérale partout au pays, notamment avec le report des procès, l'augmentation des libérations anticipées et des peines purgées à domicile. Dans certaines provinces, la population des prisons provinciales a diminué de moitié, et ce, sans poser de danger pour la population. Cela démontre que, dans bien des cas, l'incarcération n'est pas nécessaire. La discussion sur la réduction du recours à l'emprisonnement, voire l'abolition de la prison, est désormais présente dans les groupes antiracistes et anticolonialistes. Elle commence aussi timidement à s'inviter dans les milieux féministes, traditionnellement plus favorables à la répression, notamment en matière de violences sexuelles et conjugales. Des solutions de rechange aux peines afflictives et à la justice pénale, telle qu'on la connaît, émergent, notamment par le biais de la justice réparatrice et transformatrice. La réponse du système pénal à la criminalité des femmes, tout comme au phénomène endémique des violences à l'égard des femmes, est et a toujours été inadaptée et frustrante. Or, il est plus que temps de repenser les solutions que l'on a choisi d'apporter aux problèmes sociaux, incluant la pauvreté, le sexisme, le racisme et le capacitisme. Et surtout, il est temps de voir la prison pour ce qu'elle est, c'est-à-dire tout sauf une solution. C'était « Punir la misère par la misère », un texte de Lucie Lemonde paru à l'hiver 2022 dans la revue « Liberté ».
La vie d'adulte, un texte de Marie-Hélène Racine-Lacroix, paru le 28 janvier 2022 dans le magazine Urbania. Quand j'étais petite, J'avais une image très claire de ce que ma vie de grande personne allait être. J'allais devenir enseignante, être mariée à un homme et avoir 3 enfants, un chien et un chat. J'allais vivre dans une maison de banlieue avec une cour arrière au gazon bien vert, décorée d'une piscine et d'une balançoire pour les petits. J'allais avoir un compte conjoint, un budget bien suivi et une Toyota Sienna beige pour aller au Costco. Récemment, j'ai eu 28 ans. Pour moi, mon anniversaire est toujours un moment d'émotion et de réflexion. D'abord, mon côté insécure adore ce rappel annuel que non, mes amis, ne me haïssent pas tous, toutes, secrètement. Ensuite, je vois cette date comme un checkpoint, une autre année de passé. Je ne suis pas certaine de comprendre pourquoi, mais cette année, l'âge me semble important. J'ai l'impression que si je m'étais dirigée vers la vie qu'imaginait la jeune Marie-Hélène, 28 ans serait l'âge où j'y serais à peu près arrivée. À 28 ans, on est censé être un vrai adulte, non? Pourtant, dans la vraie vie, j'ai depuis réalisé que je ne marierai jamais un homme, faute d'attirance envers eux. Je me suis dirigée vers les arts, je suis pigiste et je vis dans un petit appartement de Montréal sans cour arrière. Je suis incapable de calculer un budget et blâme le capitalisme pour tous mes problèmes de toute façon. À part Amos d'Aragon, mon chat adoré, je suis très loin de cette image que j'avais de la vie d'adulte. Je ne pourrais pas en être plus heureuse. J'étais une enfant anxieuse. Bien que j'étais déjà fascinée par l'écriture, le dessin et l'humour, je me censurais moi-même dans mes fantasmes de carrière d'artiste. Je savais que les bédéistes, les auteurs et autrices et les humoristes existaient. Mais je me disais que ce n'était pas un but réaliste à avoir. J'étais obsédée à l'idée d'être parfaite pour correspondre aux attentes envers moi, bien qu'elles étaient complètement imaginées. Je me disais que si je suivais un chemin conforme à mes modèles, mes parents et mes proches n'allaient jamais avoir à s'inquiéter pour moi et je n'allais déranger personne. J'allais être normale. Je me suis toujours sentie différente, sans pouvoir l'articuler ou en comprendre les raisons. J'ai vite développé un complexe envers mes idées bizarres et appris à m'adapter à un groupe pour qu'il ne me trouve pas étrange ou malaisante, bien que souvent sans succès. Quand mes amies parlaient des garçons sur qui elles avaient des kicks, je ne comprenais jamais leur intérêt. J'ai appris à choisir automatiquement un garçon qui remplirait ce rôle, encore une fois pour contrer cette peur d'être différente. Quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'allais être grande, je répondais que j'allais être enseignante comme mes parents. C'est une réponse que les gens en trouvaient satisfaisante, même adorable. Pourtant, j'inventais déjà plein d'histoires et j'aimais faire rire. Je rêvais déjà d'avoir le temps pour faire de la bande dessinée dans mes temps libres de grande personne. Même en grandissant, j'ai toujours justifié mes choix avec ce désir de perfection. Au secondaire, j'ai choisi d'aller au programme d'éducation internationale au lieu d'en arts plastiques parce que ça me semblait être la bonne chose à faire. J'étais cette personne insupportable qui capotait quand elle avait moins qu'un A. Mon côté créatif ressortait occasionnellement, comme la fois où je m'étais dit que c'était une bonne idée de mettre un tutu mauve à l'école. Mais les regards moqueurs de mes pères étaient assez pour me renvoyer au plus profond de mon désir d'anonymat. Au cégep, Je me disais que les arts et lettres allaient me servir en éducation. Même quand le naturel est revenu au galop, comme un cheval rebelle à sa préadolescente unique dans un film équestre et que je suis allée en bande dessinée à l'université, j'essayais de justifier mon choix à mes parents qui me supportaient déjà pleinement. Quand je me suis inscrite à l'école de l'humour, ma chère mère a dû me dire d'arrêter de me justifier. Il y a quelques semaines, ma petite sœur me disait que j'étais courageuse de m'être lancée dans une carrière créative. Je lui ai répondu que je n'avais pas de mérite, que c'était ça ou rien. Effectivement, pour l'avoir essayé, je trouve les 9-to-5 de ce monde beaucoup plus courageux que moi. Malgré mes insécurités qui sont toujours présentes sous forme d'un énorme sentiment d'imposteur, je gère beaucoup mieux mon anxiété que du haut de mes 8 ans. Je me sens bien dans ma peau, à ma place et choyée. Je trouve drôle de voir passer des articles, surtout en anglais, décrivant ma génération comme des esprits libres, jonglant avec différents emplois et préférant la vie nomade de locataire. J'ai beau donner le crédit à ma personnalité, la société a joué un grand rôle dans la vie où j'ai abouti. Les maisons sont hors de prix et la sécurité d'emploi semble être un mythe de l'époque de nos grands-parents. Dans le fond, je ne sais même pas si j'aurais pu atteindre la vie que je m'imaginais il y a 20 ans. Même si je suis le contraire de ce qu'elle s'imaginait, je pense que la petite Marie-Hélène me trouverait très cool. C'est tout ce qui m'importe. La vie d'adulte, un texte de Marie-Hélène Racine Lacroix, paru le 28 janvier 2022 dans le magazine Urbania.
Utiliser le rétinol sans y laisser sa peau. Un texte de Jessica Dusty, paru le 18 novembre 2022 dans le magazine Coup de pouce. Figurant parmi les agents anti-âge les plus efficaces sur le marché, cet ingrédient potentiellement irritant suscite encore la méfiance. Petit guide pratique pour en tirer un maximum de bienfaits. C'est quoi? Dérivé de la vitamine A et antioxydant notoire, le rétinol a maintes fois prouvé son efficacité pour atténuer rides, ridules et taches pigmentaires, illuminer le teint et gommer les imperfections, études cliniques à l'appui. Seul bémol, ses effets secondaires. On sait qu'il augmente la photosensibilité et qu'il peut causer des irritations cutanées, des rougeurs et de la sécheresse chez certaines personnes. L'utilisation de cet ingrédient, qu'on peut presque qualifier de miracle, requiert donc quelques précautions, et ce, même si les produits en vente libre sont limités à une concentration d'au plus 1%. Comment l'intégrer à notre routine de soins de la peau? Le mot d'ordre? Patience. On peut opter, en premier lieu, pour un produit à dosage très léger, de 0,01% à 0,1%, question d'habituer notre peau en douceur. Qu'on utilise un produit à base de rétinol pour ses propriétés anti-âge ou pour combattre notre acné, on l'ajoute progressivement à notre routine, préférablement en soins de nuit. On commence ainsi l'intégration un soir sur trois pendant 2 semaines. Puis, on augmente la fréquence à un soir sur deux pendant une autre période de 2 semaines avant d'en arriver à une application quotidienne. Tout se passe bien? Une fois ce protocole graduel terminé, on peut ajouter, toujours étape par étape, une application le matin. Si toutefois des irritations apparaissent et persistent, voire s'aggravent, on cesse son utilisation. À quel âge commençait l'utiliser? comme n'importe quel soin anti-âge, on peut ajouter le rétinol à notre arsenal beauté dès le début de la trentaine. On profitera alors de sa capacité à stimuler le renouvellement cellulaire, à déloger les peaux mortes et à désengorger les pores pour un teint uniforme et éclatant. Quelles sont les contre-indications? D'abord, les femmes enceintes ou allaitantes doivent éviter tout produit au rétinol. Ensuite, quelle que soit la concentration, on se tient loin des rayons UV et on applique un écran solaire à FPS 50, et ce, même si on ne l'utilise qu'au coucher. On devrait même envisager de prendre une pause de rétinol si on va dans le sud cet hiver. Autre contre-indication importante, les traitements exfoliants au AHA ou au BHA ne font pas bon ménage avec cette vitamine puisqu'ils risquent d'exacerber l'irritation. On leur préfère les gommages physiques plus doux. Quelles sont les solutions de rechange? Malgré toutes nos précautions, le rétinol nous cause beaucoup d'inconfort et de rougeur. On se tourne vers des ingrédients actifs botaniques comme le bacuchiol, star anti-âge de l'heure offrant des résultats comparables au rétinol. Truc de pro. Pour minimiser les réactions cutanées si on a la peau très sèche ou sensible, on superpose une crème hydratante contenant des biolipides, comme le beurre de karité ou les céramides, à notre sérum à base de rétinol. On recherche aussi la mention « rétinol encapsulé » sur l'étiquette, une technologie qui en augmente la tolérance. C'était « Utiliser le rétinol sans y laisser sa peau », un texte de Jessica Dosti, paru le 18 novembre 2022 dans le magazine Coup de pouce.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Claire Dorion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.